Le naufrage de l'Intermezzo, l'affaire Caspar et Beille. Narration, Florent Houllier. Jeudi 17 août 2006, 9h30 du matin, un hélicoptère de l'armée de l'air portugaise survole et dépasse le Cap Saint-Vincent, pointe extrême ouest du pays. Il est talonné par une vedette de la police maritime qui fend les flots d'un océan capricieux, chahuté par les remous d'une tempête survenue dans la nuit. Il y a une demi-heure à peine, les autorités ont été contactées par un tanker espagnol, le Sichem Fenol, voguant à plusieurs dizaines de kilomètres de la côte et ayant repéré sur son itinéraire les rescapés d'un naufrage. Des Français, un homme en combinaison de sauvetage bleu, une femme en combinaison blanche. Tous deux sont recroquevillés dans un canot pneumatique, malmenés par des vagues de 5 mètres et un vent de force 6. Derrière eux dérive l'Intermezzo, trimaran battant, pavillon belge, face contre mer, ses trois coques renversées. Repêchés par le Sichem Fenol, les deux naufragés s'empressent de signaler à l'équipage l'existence d'un troisième homme. Mort ou non, c'est toute la question. Il se trouverait toujours dans l'Intermezzo, il serait sage de s'en soucier. Mais la mer déchaînée s'y oppose, priorité donnée aux vivants, à la surface. Élie Treuillet, souffrant d'une légère hypothermie et d'une entorse à la cheville pour l'un, le couple est pris en charge par une équipe médicale de la base militaire de Figo Maduro, puis par l'hôpital Curie Cabral à Lisbonne. Des enquêteurs de police les suivent attentivement. On s'en doute, ils aimeraient bien faire connaissance. L'homme en bleu s'appelle Thierry Beille, 51 ans, longue silhouette sèche, des cheveux courts grisonnants sur un visage taillé à la serpe. Grande adepte loquace, on écoute plutôt la femme en blanc, qu'il présente non comme sa compagne, mais comme sa sœur. Corinne Caspar, 48 ans, guère plus épaisse, une frange châtain sur des traits fins. Nul n'oublie le dernier naufragé resté sur place. Dans la journée du 17 août, un second tandem hélicoptère vedette rattrape le trimaran à la dérive, tenu en respect par une mer décidément impitoyable. Impossible pour les plongeurs d'accéder à l'intérieur, à peine toquent-ils sur la paroi des coques, espérant recevoir en réponse un signe de vie. Le troisième homme s'appelle André Le Floc, moins belge que breton à en juger par son nom. Un retraité nantais de 67 ans, plaisancier et propriétaire de l'Intermezzo. Corinne l'a rencontré il y a quelques jours, à la terrasse d'un café sur le port d'Olayo, sur la côte de l'Algarve. Lui vogue en solitaire depuis quelques années, elle baroude avec son frère sur la péninsule ibérique, des accointances secrets entre compatriotes. Corinne et Thierry sont des béotiens de la navigation. Ils ont tout à apprendre d'André, vieux loup de mer, qui les invite à faire un tour. Pas longtemps, 2 ou 3 jours, l'occasion d'aller glisser le long de la Ria Formosa, sublime ensemble de lagunes, de slalomer entre les îles avant de remonter le rivage portugais. Comment refuser ? La mini-croisière débute le 15 août, l'Intermezzo met le mât à l'eau, 2 jours plus tard, chaviré par la tempête dans la nuit du 16 au 17. À ce stade, on s'étonne qu'André Le Floc, skipper aguerri, soit allé se perdre si loin sans tenir compte de l'avis de mauvais temps diffusé le jour même de l'appareillage, sans affaler ses voiles ni activer sa balise de détresse à l'aune de la tourmente. Oh, on va vite comprendre. Le 18 août, au lendemain de l'opération de sauvetage et au bon vouloir du vent apaisé, une nouvelle équipe de plongeurs larguée à proximité de l'épave réussit à apercevoir André Le Floc. Derrière un étroit hublot, son corps inerte flotte dans une cabine, pieds et poings liés. Dès lors, Corinne Caspar va s'empresser de raturer sa déposition initiale. Profite-t-elle d'une indiscrétion policière ou d'un flash info à la télévision, cadrant le renflouement du trimaran, son remorquage délicat prévu jusqu'au port de Portimao? On ne le sait. Elle ne peut en tout cas compter sur son frère Thierry, toujours aussi peu coopératif, exigeant un avocat, intercepté dans les couloirs de l'hôpital alors qu'il tente d'aller prendre l'air. C'est Corinne qui revient sur le véritable déroulé de la croisière, sur le calvaire vécu une fois le littoral à bonne distance. Il commence en amont de la tempête, en plein jour, le 16 août. Tandis qu'elle prépare un déjeuner en cuisine, André se serait approché, un peu trop, et aurait profité que Thierry soit sur le pont, à la manœuvre, pour lui signifier qu'il était temps de payer sa place à bord. En d'autres termes, il essaye de la violer. Corinne hurle à l'aide, Thierry déboule, le skipper se saisit d'un couteau et les menace avant de recevoir par derrière un bon coup de poil, sur le coin du crâne. On en profite pour lui faire avaler quelques somnifères, le ligoter avec du boot, soit de la corde, mais le mot est interdit sur un bateau, et l'enfermer dans une cabine. Propulsé capitaine intérimaire de l'Intermezzo, les deux mutins décident bon gré mal gré de regagner la terre ferme et de livrer le floc à la police. La suite du trajet sera empêchée dans la nuit par cette fameuse tempête. Caspar et Bay quittent le navire et s'agrippent au radeau de survie, omettant par négligence ou contraint par l'urgence de délivrer leurs prisonniers. Bien que saisissant, le récit de cette terrible agression ne convainc pas la police judiciaire portugaise. Comme dévoilé trop tard, comme trop conciliant avec les dernières découvertes de l'enquête. Un examen médical pratiqué sur Corinne ne révélera aucun sévice caractéristique d'un viol, le constat n'excluant pas la possibilité d'une tentative échouée. Renseignement pris, André Le Floch n'a pas non plus l'allure d'un agresseur. Père de 3 enfants, grand-père, né en 1939 à Plouvienne, dans le Finistère. Dernier d'une fratrie de 6, il a consacré sa vie et sa carrière à la firme familiale, reconvertie dans l'aliment pour bétail et l'élevage industriel. La voile le passionne depuis toujours. L'océan a beau avoir englouti son père, puis l'un de ses frères, André ne lui en a jamais tenu rigueur. Fraîchement retraité en 2002, il réalise un rêve de gosse, s'offre pour 100 000 euros l'Intermezzo, fameux trimaran de compétition capable de filer à 30 nœuds, bolide piloté par Olivier de Moussy sur la route du Rhum en 1982. 3 ans après avoir repris la barre, Le Floch se lance dans un tour du monde pour 3 ans, en solitaire. Passé quelques infortunes, dont une collision avec un cachalot distrait, son navire mouille en août 2006 dans le port d'Oléao. Il y croise Corinne Caspar, Thierry Bay, et à leur contact, termine sa course plus tôt que prévu. La conviction des policiers nuance le dénouement. Entrevoit un homicide, peut-être, caché dans les nuages de la tempête. Vendredi 18 août, au terme de leur garde à vue, Corinne Caspar et Thierry Bay sont déférés devant un juge d'instruction à Lagos, qui prononce leur mise en examen, puis leur placement en détention. Lui est transféré à la maison d'arrêt de Portimao, elle à la prison pour femmes de Demira. Au sortir du cabinet, un attroupement de journalistes portugais et étrangers offre une tribune rêvée aux deux suspects, forcenés. Des gros bras les ceintures, les forcent à grimper dans les voitures, eux se débattent, hurlent à plein poumon leur innocence. « Ayuda, ayuda, à l'aide, à l'aide !» En français, en espagnol, ils dénoncent l'erreur judiciaire à venir, la sombre machination dont ils sont victimes, leurs droits bafoués, l'interdiction de communiquer avec le consul français. Leur détresse sème le trouble, évidemment. Des points manquent de logique. En concevant qu'ils soient coupables, pourquoi diable Corinne aurait mentionné l'existence d'André Le Floch, sitôt tiré d'affaire ? En taisant son nom, elle et Thierry auraient gagné des jours précieux, propices à la fuite, et les autorités n'auraient pas déployé de tels moyens pour remettre l'Intermezzo à flot. Les enquêteurs sont moins tendres, ils ont de quoi. Ils savent distinguer les mensonges de Caspar et Bay, ils n'arrêtent pas. Leurs droits ? Des représentants de l'ambassade française leur ont rendu visite à l'hôpital Curie-Cabral et ont mis à leur disposition une assistance juridique. Ils se disent frères et sœurs. L'état civil en France ne confirme aucun lien de famille. S'il subsiste l'ombre d'un doute, le retour de l'Intermezzo sur la terre ferme la dissipe sans ménagement. 20 août 2006, le trimaran remorqué sur 28 milles parvient sans heurts ni fracas dans le port de Portimao. Avant de l'envoyer en cale sèche pour examen approfondi, le corps de son propriétaire en est extrait. André Le Floch n'est même pas encore arrivé à l'Institut médico-légal qu'il y a déjà beaucoup à dire. Il est littéralement saucissonné. Le bout se noue autour de son cou, descend jusqu'au poignet ficelé, serpente dans son pantalon et immobilise les chevilles. À chaque étape, des nœuds assurent l'emprise, des nœuds de marin. Le skipper n'avait aucune chance de s'en dépêtrer. Ses doigts sont scotchés à l'aide de rubans adhésifs. À bien y regarder, il n'avait aucune chance tout court. À chaque nœud sont attachées toutes sortes de choses. Ancre, édredon, ustensiles de cuisine. Serrant la taille, une ceinture de plongée soutient, elle, 8 kilos de poids, en plomb. Un dispositif étonnant. Superflu si la démarche consistait simplement à remettre aux autorités le pauvre bougre ficelé, redoutable si l'on projetait de le faire couler au fond de l'Atlantique.